Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio Avignon, par exemple, sur 95.2 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. On parlera du Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande, les langues, une région historique du Piémont en Italie, l'intérêt des Français pour les vins internationaux et le Vino Quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, deux femmes, Hélène Piau, Christelle Lebrel. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Et non pas un, mais trois messieurs. David Cobol, Philippe Forbach et Christophe Siraglini. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, on vous retrouve, Christelle, vous êtes donc déléguée générale de Vins et Sociétés, pour nous parler de l'adhésion de clubs d'œnologues, de dégustation des grandes écoles à une charte de consommation responsable. Alors expliquez-nous.
Alors avant de rentrer dans le détail de la charte des clubs œno, on va essayer de replacer dans son contexte la consommation des millennials. Le baromètre d'opinion IFOP réalisé avec Vins et Sociétés sur les Français et le vin nous enseigne que les 18-24 ans affichent un réel intérêt pour le vin et la culture. Ils sont 71% à être attachés au vin en tant que composante de l'art de vivre à la française et ils sont tout aussi nombreux à souhaiter en connaître davantage sur le patrimoine vitivinicole français. Alors que nous disent ces chiffres ? Que ces jeunes ont entendu parler de vin à table en famille, ça paraît certain. Que certains ont entendu leurs aînés en apprécier les serveurs, c'est fort probable. Donc on pourrait croire que les chiffres sont encourageants et qu'ils signifient que cette génération consomme volontiers du vin.
J'ai très peur du mais là.
Or, entre l'attachement à un produit et sa consommation, il y a un grand décalage. Et c'est ce que j'appellerais volontiers le nouveau paradoxe français. Il faut le dire, les 18-24 ans se détournent de la consommation de vin, puisqu'ils sont seulement 8% à déclarer aimer en boire. Autrement dit, les millénials sont conscients que le vin est un patrimoine français, mais un patrimoine qu'ils n'ont pas toujours versé dans leur verre ou porté à leurs lèvres. Alors que s'est-il passé dans la transmission intergénérationnelle ? On peut se poser la question. Dans les générations dites « boomers », auxquelles certains d'entre nous appartiennent, dans 3 cas sur 4, le vecteur de la consommation, c'était le père. Aujourd'hui, avec l'évolution de la composition de la famille et du rôle du père, ce sont les pères, P-A-I-R, qui deviennent les passeurs. C'est dorénavant à l'intérieur de cette même génération, d'un même groupe de jeunes adultes, que les millennials apprennent à goûter et à découvrir le vin. Cette communauté de pairs, on la retrouve par exemple dans les clubs œnologiques des grandes écoles. Ce sont des bons relais de connaissances et de transmission. Depuis quelques années, la filière vitivinicole que nous représentons chez Vins et Sociétés s'est rapprochée des établissements d'enseignement supérieur parce qu'elle se doit évidemment de transmettre la culture vitivinicole et les bonnes pratiques qui vont avec la consommation de son produit. Vins et Sociétés a créé avec le club AOC Cage, une école de commerce bien connue des millennials, a créé une charte des clubs œnologiques autour de la consommation responsable de vin. Cette charte prévoit de faire respecter quelques règles et de véhiculer les bonnes pratiques à mettre en place à l'occasion d'une dégustation. Pour nous aider dans la démarche, Charlotte Guyot, sacrée meilleure jeune sommelière de France en 2019, a accepté d'en être l'ambassadrice. Merci encore à elle. Aujourd'hui, ce sont 13 clubs qui sont signataires et qui regroupent des centaines d'étudiants. Ce sont ces mêmes étudiants qui se sont rendus au Salon de l'Agriculture et qui ont eu l'honneur de remettre au Président de la République la charte de la consommation responsable dont ils sont les acteurs aux côtés de la filière. Emmanuel Macron a salué cette démarche et a invité les étudiants à l'Élysée pour une dégustation en présence de sa sommelière, Virginie Routis. On a fait des heureux ce jour-là, je crois. C'est une très belle reconnaissance pour ces jeunes et pour notre filière. Merci à lui.
Non, bravo, c'est quand même très ça. On peut réagir au propos de Christelle, ça va dans le bon sens, c'est super. Quoi.
Les clubs de dégustation des grandes écoles sont vraiment des clubs très actifs. Moi, j'ai été juge et présidé quelque chose organisé par Sciences Po, qui a lieu à Bollinger. Et c'était très impressionnant. Et bientôt, il y a une autre tournée qui commence. D'ailleurs, ils se sont intelligemment groupés pour faire leur concours, leur compétition de dégustateurs. Dans la même semaine, comme ça, les gens qui viennent de l'étranger peuvent assister à tous les concours, participer à tous les concours.
C'est bien ça.
Donc il y a des gens des États-Unis, d'Australie, il y avait des gens de Copenhague, d'Oxford, plus les grandes écoles françaises. Et donc, il y a Sciences Po, il y a HEC, il y a ESSEC. Ils ont tous leurs concours. Donc, c'est une manière de faire de l'éducation, de faire de l'information et de créer un réseau autour du thème 20.
Philippe Aubrac.
On repose souvent aux jeunes aujourd'hui, y compris dans les écoles, de boire beaucoup, de bincher.
Un peu n'importe quoi.
Et ça, c'est une vraie approche, justement, pour éduquer.
Ah oui, c'est
l'éducation.
C'est
est une meilleure, à mon avis, lutte contre la suralcoolisation en apprenant.
Prévention,
on a
aussi,
la dimension sociale, on a la dimension de transmission, d'échange
culturel.
Exactement, parce qu'il y en a plein, et c'est vrai que, comme David, j'ai eu l'occasion de participer ou d'être juge
concours,
dans ces concours, mais c'est fou ce qu'ils apprennent. Je veux dire, ils boivent pas du vin, ils font pas boire.
Ils vont pas à l'école, par contre ils bossent devant, c'est bien ça.
Ils connaissent
leur connaissance, c'est impressionnant.
Oui, je trouve ça formidable, mais ce qui m'embête un peu, c'est qu'on parle de grandes écoles, donc on parle d'un étudiant sur 10, on va dire.
Elles
et puis qu'il y a beaucoup de gens à l'université.
Alors c'est pas que les grandes écoles, c'est l'enseignement supérieur. Donc en fait, vous pouvez aussi bien avoir des universités que des grandes écoles. Et évidemment, là pour l'instant, on est à peu près à moitié-moitié en termes de représentation.
Bien,
et le but, c'est d'essaimer, évidemment.
Et votre job, c'est ça, Christelle, c'est d'aller prêcher les bonnes paroles, si je puis dire, auprès des autres écoles qui n'ont
entre
pas
autres,
de club.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est transmettre le bon mode d'emploi du produit. Mais en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que si on ne sait pas dialoguer avec la génération Y, on perd. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque en termes de génération, c'est que la consommation de nos grands-parents, évidemment, consommait davantage. Mais si on transfère une génération à l'autre, on pense que les jeunes consomment avec l'âge. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'une génération, elle a une empreinte très forte tout au long du temps. C'est-à-dire que les jeunes qui, aujourd'hui, entre 18 et 24 ans, vont augmenter un peu leur consommation, mais très peu. Donc en fait, cette empreinte de non-consommateurs, on va la retrouver tout au long du temps. Et il faut bien en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'évidemment, leur marge va progresser. Mais la génération Y, par exemple, elle consommait quasiment une fois et demie plus que la génération Z qui arrive. Et donc ça, c'est une empreinte générationnelle qu'on va retrouver et à laquelle on essaie de s'intéresser parce que c'est l'avenir de notre filière et l'avenir de notre produit.
C'est très important. Et les consommateurs. Maître Christophe Seriglini, vous en pensez quoi de cette initiative? C'est quand même intéressant. Hein, je sais pas si...
Moi, je trouve ça très intéressant. Je suis juste déçu qu'il n'y ait pas une association de la sorte dans mon université. Mais bon,
il faut la créer.
Je pense qu'aussi pour les universités, il y a aussi peut-être un problème de moyens. Alors que les grandes écoles, les associations d'élèves,
vous savez, Christophe, on peut faire un petit club d'égustation entre amis dans une école sans beaucoup de moyens quand même.
En fait, ils font une association et en fait, ils payent une cotisation à l'année et ils invitent des vignerons à participer.
Oui, c'est ça.
Donc, je crois pas que ça soit exorbitant.
Il faut des bonnes volontés.
C'est plus compliqué.
Le niveau, généralement, le budget d'un étudiant à la fac.
Oui, c'est vrai. Il y a un petit peu moins de sous.
Je suis d'accord avec Christophe. C'est pour ça que je soulignais que c'est dommage que ce soit quand même très, peut-être pas réservé, mais en partie limité aux grandes écoles.
Bien, en tout cas, Christelle, bravo, belle initiative, et il faut continuer à faire ça aussi au niveau européen, pourquoi pas, je ne sais pas si ça existe, mais ça pourrait être un bon sujet. Christophe, on parle un peu de l'Italie, et alors vous avez quoi? Vous avez les langues sur la langue aujourd'hui?
Oui,
allez, ça va se délier tout ça.
C'est la langue, je voulais délier, et puis c'est aussi un petit clin d'œil à l'Italie qui vit des moments un petit peu compliqués. Mmh. Et donc je vais vous parler d'un vin de ma région, enfin d'une de mes régions, un vin du Piémont. Mais je ne vais pas vous parler des emblèmes de la région qui se situe donc autour d'Alba, que sont le Barolo et le Barbaresco, ça aurait été trop facile. Non, je vais vous parler d'une dénomination moins connue, longtemps restée dans l'anonymat, et je vais vous expliquer pourquoi elle en est un peu sortie, grâce notamment à un producteur. Donc je vais vous parler des langues. Les langues, alors G-H-E. À la fin,
langue,
c'est un peu subtil.
Langue
en italien. Et en fait, c'est d'abord une région historique donc du Piémont, qui est à cheval entre, pour ceux qui situent, entre les provinces de Coni et d'Asti, et à la frontière de la Ligurie, pour un peu de géo. Et on trouve dans la région, effectivement, le Barolo, le Barbaresco, ça, ils y sont. Mais c'est une région surtout qui se caractérise par de très très beaux paysages. On a beaucoup de collines, des villages historiques, des anciens bourgs hauts perchés, fortifiés.
C'est magnifique.
C'est magnifique. C'est assez beau, effectivement. Mmh. Puis aussi, on y mange très bien, comme souvent en Italie.
Bien sûr, rien.
Bon, alors bien sûr, il y a la truffe blanche d'Alba, tout le monde connaît. Mais alors,
on va sacrifier, tiens, on va la goûter.
Non, mais aussi typique et moins cher, les gâteaux au chocolat de Kerasco. Vous recommande.
Et on peut rajouter aussi bon pour certains et pas cher, le Nutella.
Non, là, on va éviter.
Il y a de meilleures pâtes à tartiner en Italie que le Nutella.
Ouais.
Mais c'est aussi une vaste région viticole, puisqu'il y a 94 communes viticoles sur la région, et qui ont reçu donc la DOC, qui est donc l'équivalent de notre appellation d'origine contrôlée, en 1994. Et d'ailleurs, depuis 2014, certains vignobles des Langues sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, quand même, au titre, alors assez évocateur, de paysage viticole du Piémont. Bon. Alors, ces collines offrent en réalité une grande variété de vins. Contrairement donc à Barolo, Barbaresco, là, on trouve un peu de tout parce qu'on utilise de multiples cépages, aussi bien en rouge, alors Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, mais aussi du Cabernet Sauvignon, du Merlot, de la Syrah, et aussi en blanc, alors l'Arneis, mais aussi du Chardonnay, etc. Et en fait, pourquoi maintenant cette appellation est intéressante? Parce qu'un producteur emblématique de la région, Angelo Gaia, eh bien, a décidé en 1996 de déclassifier énormément de ses Barolo et Barbaresco en Langhe.
Incroyable.
Et des très connus, le Spers, le Damargui et autres. Alors, à noter que depuis, l'une de ses filles qui a repris, elle en fait reclasser certains. Bon, hein, c'est une petite opposition.
Oh, la famille,
mais
vous savez
coup,
ce que c'est, la famille.
Ce sont des vins bon, magnifiques et qui, du coup, ont haussé l'appellation
l'image
elle-même, l'image de l'appellation. Ouais. Mais du coup, je pense que d'autres producteurs en ont profité derrière, mais pas au sens péjoratif du terme. Et c'est une appellation qui est très intéressante, où on trouve de très belles choses, très variées.
Les prix sont comment, Christophe ?
Il y a de tout. Parce qu'il y a des très très grands vins, il y a des choses plus simples. Ça dépend aussi des cépages utilisés. Alors, à part Angelo Gaia, parce que ça reste assez
la star,
cher.
La star, on va dire.
Il y a Pio Cesare, qui fait de très belles choses aussi, Roque di Manzoni, et puis Mauro Molino. Voilà des noms que je pourrais donner en la matière. Donc, ce qui prouve que je voulais simplement dire que dans cette région, alors on peut trouver des vins mythiques, hein, qui effraient un peu en termes de prix, mais aussi on peut trouver des très belles choses
sous
une appellation qui peut faire aussi des très grands vins, puisque des grands décident de déclassifier leur viande dans cette appellation. Je trouvais assez
amusant. C'est étonnant ça. En tout cas, je précise quand même, Christophe, que vous êtes avocat associé chez Freshfield, hein, donc le vin c'est votre passion mais c'est pas votre métier, vous avez d'autres qualités également,
jusqu'à maintenant
professeur émérite. On réagit quelques instants, en tout cas David Cobol, un petit commentaire sur c'est quand même étonnant, hein, quand on a la chance d'avoir des belles appellations, de dire allez hop, on les enlève.
Mais je crois que c'était fait aussi pour avoir plus de liberté, hein, parce que
c'est pour ça qu'il l'a fait. Il voulait pouvoir utiliser différents cépages, être beaucoup moins contraint, parce qu'en Italie, sur les grandes appellations, j'en avais parlé notamment pour les Franciacorta, ils sont très très exigeants. Très embêtant.
Bon, on en reparlera en tout cas. Merci beaucoup Christophe Serglini, merci à tous. On se retrouve dans un instant. Nous serons au bar à vin du caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, avec le Vino Quiz.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le Vino Quiz.
Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. Le livre Vous allez enfin vous y connaître en vin de Sébastien Durand-Viel et David Cobold. Voici la question de ce week-end. Quel a été le classement du château Poitevin en 2020? Réponse A, cru bourgeois supérieur. Réponse B, cru bourgeois inférieur, pas de bol. Ou réponse C, premier cru petit bourgeois. Les ouvriers, bon. Allez, pour répondre et gagner le livre...
Les casse-moyennes.
Vous allez enfin vous y connaître en vin de Sébastien Durand-Viel et David Cobold. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène. David Cobold, on vous retrouve à bord de Invino Sud Radio. Vous êtes le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. On parle des Français qui devraient peut-être s'intéresser un peu plus, hein, aux vins en dehors de l'Hexagone, les vins étrangers, internationaux.
D'abord, il y a la marge. Si on parle de bilan commercial, il est hyper positif pour l'exportation en ce qui concerne le seul secteur vin. Je ne parle pas des spiritueux, c'est une autre affaire. Puisqu'on exporte pour une valeur 10 fois supérieure de vin par rapport à ce qu'on importe. Alors ça, depuis très longtemps, et la progression des exportations, je ne parle pas de cette année qui va malheureusement beaucoup souffrir, mais la progression est constante et assez régulière sur le bilan positif commercial des exportations des vins français. Par contre, on en importe très très peu. Alors, vous me direz que c'est normal puisqu'on a beaucoup de vins, mais c'est aussi une question d'attitude. Et il y a 3 pays où c'est très frappant, et c'est les 3 principaux producteurs de vin, c'est la France, l'Italie et l'Espagne, qui tous les 3 importent très peu de vin d'ailleurs. Petite exception dans quelques régions d'Italie, parce que Christophe en parlait tout récemment, je parle de la région de Piémont, où j'ai vu des cartes de champagne absolument splendides, avec tous les meilleurs champagnes, y compris des petits producteurs.
Et les Spumanti sont avoir. Bons, Christophe, les Spumanti, vous n'aimez pas trop les bulles, vous?
Si, pas plus que ça.
Vous êtes plutôt champagne.
Je pense en particulier à un bistrot à Serra Longa d'Alba, où il y a une énorme carte Barolo de Barbaresco et une aussi grande carte de champagne.
Et c'est incroyable.
C'est chouette.
Très amateur de bulles. Donc, je reviens à mon sujet. je pense que les Français devraient, sur le principe, intéresser davantage au vin d'ailleurs, parce que le vin, c'est la culture du pays, c'est l'histoire du pays, mais c'est aussi la diversité. Donc, une plus grande diversité du goût, parce que les cépages sont différents, les climats varient, les techniques traditionnelles varient. L'expérimentation aussi existe et chacun peut expérimenter à sa guise dans certaines contraintes techniques. Donc je pense qu'il y a énormément à apprendre des autres. D'ailleurs, beaucoup de jeunes vignerons français font leur apprentissage en partie. Une fois terminées leurs études, leur DNO, le Diplôme National d'Œnologie, ils vont aller faire des stages à l'étranger, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et c'est un enrichissement. Je pense que voyager, c'est toujours un enrichissement. On revient chez soi, on est content, mais on a appris quelque chose. Donc cet apport par la dégustation, je pense qu'elle est très positive. Je crois qu'il ne faut pas rester bloqué en disons, moi je suis français, je ne bois que français. Alors, la progression des importations des vins d'ailleurs, elle existe aussi. On estime que sur les 10 dernières années, les importations ont progressé de 6 à 7% par an. Alors, c'est sur une base, certes, très faible.
Oui, on part de bas, mais en taux de progression...
Mais aujourd'hui, on est à... les exportations n'ont cru que de 34%, or que les importations ont cru de 55%. Donc, ça grignote un tout petit peu. Et je constate que les jeunes générations, peut-être pas les millénials, mais les plus jeunes qui voyagent de plus en plus, avec ou sans le programme Erasmus, mais eh bien, ils s'ouvrent leur esprit et du coup, ils sont très ouverts à des vins. Je pense, quand je parle avec des gens de ma génération,
donc
français...
Donc des jeunes de 25 ans.
Voilà, c'est ça. Merci. J'ai un baby boomer. je constate que les gens disent « Ah oui, les vins d'ailleurs, oh non, je ne veux pas. » Mais les jeunes, ce n'est pas du tout ça. Ils sont complètement ouverts dans les clubs de dégustation.
Vous en pensez quoi, Christelle Leprès, la déléguée générale de Vins et Sociétés?
En fait, vous avez raison. En fait, par leur voyage, ils sont évidemment intéressés à la diversité des vins du monde. Mais en même temps, je crois qu'ils trouvent en France une diversité assez incroyable. Et on voit en termes de mode. Par exemple, en ce moment, chez les jeunes, le chenin, c'est quelque chose...
C'est tendance.
C'est tendance, où on parle du chenin. Et en fait, ils s'intéressent aussi à une valeur qui, pour le coup, est tout à fait de leur génération, c'est au local. Donc en fait, ça explique aussi en partie le succès de la bière. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes sur des bières extrêmement locales, craft. Et donc en fait, ils sont un peu enfermés dans cette contradiction qu'à la fois, ils sont très ouverts sur le monde et en même temps, ils ont envie de consommer local. Donc évidemment, vu le nombre d'appellations qu'on a en France et pour connaître assez bien la Bourgogne, où vous avez 1247 climats, je crois que si vous avez envie de faire le tour des appellations françaises, vous avez moyen de vous intéresser.
C'est clair,
et à de la qualité.
Ouais,
c'est tout à fait...
Alors, si on raisonne en type de vin non français qui est importé en France, évidemment, ce sont les pays voisins qui dominent la situation.
Le Portugal aussi, peut-être?
Alors, c'est trois pays, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. L'Espagne en tête, pourquoi? Simplement pour les questions de prix. L'Espagne, le prix du kilo de raisin dans la partie centrale de l'Espagne, qu'on appelle la Meseta, c'est moins de 20 centimes d'euros le kilo. Je ne sais pas comment
on est. Il faut combien de kilos, tiens, David, pour faire une bouteille de vin?
C'est très, très variable.
En général, en moyenne, quoi.
En moyenne,
1,5 kg.
Alors, ça, c'est essentiellement pour produire des vins d'importation de vrac. Donc, c'est le bas de gamme, même s'il y a des vins très haut de gamme en Espagne. Hélène nous a parlé de la région de Ribera del Duero, les grands Rioja, les Priorat, évidemment, c'est des vins très haut de gamme. Après, il y a le Portugal qui pèse lourd. Pourquoi? À cause du marché de Porto.
C'est ça.
Alors, le marché de Porto, le premier marché du Porto, c'est le Portugal, mais le deuxième, c'est la France. Malheureusement, c'est les Porto bas de gamme. C'est-à-dire que c'est, sans être péjoratif, c'est les Porto simples que les vieilles dames boivent dans les campagnes françaises.
Oui, avec le feu de cheminée, le labrador et puis le vieil oncle.
Avec ou sans labrador. Ouais. Donc ça, c'est un peu comme l'XRS doux pour les vieilles dames anglaises. C'est pas nécessairement la meilleure qualité. Mais je trouve que le Portugal, pour le nommer, pour en parler, c'est un des pays les plus intéressants. Figurez-vous que le Portugal a 340 cépages. C'est un petit pays, beaucoup plus petit que la France. Ça a 50% de plus de variétés de cépages que la France.
C'est énorme. énorme.
Rien que l'appellation Porto, il y en a.
Déjà, il y a 85 recensés dans la seule vallée du Douro. Donc, cette diversité, je trouve que c'est un enrichissement et ça peut être aussi un enrichissement pour la viticulture française. Je constate aujourd'hui que, vu le réchauffement climatique, de plus en plus de cépages issus de pays chauds, je pense à la Grèce, pense à l'Italie, je pense à l'Espagne et le Portugal, sont à titre expérimental utilisés dans les vins de pays dans le sud de la France.
Et il y a une tendance sur la couleur des vins, peut-être, David, ou blanc, rouge, rosé?
Non, rouge, blanc, rosé, on trouve des choses partout. Je nommerai par exemple les vins de Santorin où le cépage Assyrtiko maintenant est admis en vin de pays d'oc. Et ça, c'est un enrichissement parce que ça permet de garder une acidité dans une région chaude.
Merci beaucoup, David Cabold. Invino Sud Radio retrouve maintenant Philippe Forbach, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, boulevard Haussmann, pour nous parler du Sauvignon Blanc de Nouvelle-Zélande. C'est une émission extrêmement internationale. Heureusement qu'on avait Christelle avec nous.
On était parti à l'international, on s'est un peu lâché. Et c'est vrai qu'on a déjà parlé du Sauvignon Blanc plusieurs fois autour de cette table, et récemment encore. Et quand on pense aujourd'hui à Sauvignon Blanc, on pense à Nouvelle-Zélande.
Moi, je pense à Sancerre,
Hélène Pio pense à Sancerre.
Hors de la frontière.
Mais si on fait un sondage même dans cette salle, la spontanéité va aujourd'hui plus.
Moi, je pense comme Hélène Pio, Sancerre aussi.
Oui, mais.
Christelle aussi.
Sancerre ne note pas sur ses étiquettes Sauvignon de Sancerre, alors que les gens de Nouvelle-Zélande mettent Sauvignon, effectivement, Nouvelle-Zélande, ce qui permet de faire la promotion du cépage. On a le même phénomène avec le Malbec d'Argentine par rapport au vin de Cahors. C'est un peu la même chose.
Du coup, maintenant Cahors met Malbec sur les étiquettes et ça se vend 10 fois plus.
Cahors, Malbec, exactement. Mais Sancerre n'a pas besoin de ça, puisque Sancerre a une très belle image également. Bon, effectivement, c'est une partie du monde qui s'est révélée être fort attractive pour ce cépage. Pour des raisons déjà naturelles. La géologie, avec notamment quelques belles parcelles calcaires, et la climatologie permettent effectivement à ce cépage de mûrir très correctement et de donner des vins avec un caractère identifiable. On revient toujours à ça, ça reste accessible. Et le Sauvignon a cette vertu-là, et le Sauvignon de Nouvelle-Zélande, il a une vraie signature. Il est peut-être moins racé que les Sauvignons, effectivement, de la butte de Sancerre ou de Chavignol dans leur élément historique.
Il est surtout plus expressif,
mais il est beaucoup plus expressif, effectivement. Donc, du coup, ces arômes de fruits exotiques, ces arômes de
mangue et d'ananas.
Exactement, tous ces arômes de fruits très frais qui font rêver aussi. Les arômes de buis, de bourgeons de cassis, d'agrumes, etc. sont extrêmement présents. Et finalement, quand on a un verre de Sauvignon qui passe au nez, hop, ça attire le nez. Et finalement, on a envie de le goûter. Et souvent, on s'aperçoit que ça peut venir de Nouvelle-Zélande, ou d'ailleurs, mais en l'occurrence, de Nouvelle-Zélande. La région la plus connue, c'est le secteur de Marlborough. Et pendant très longtemps, et David l'a rappelé il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup, beaucoup de vignes de Sauvignon plantées en Nouvelle-Zélande. C'est quasiment 70% de la production de Nouvelle-Zélande, c'est du Sauvignon. Pendant longtemps, ce n'était pas le cas. C'est un phénomène assez récent. C'est dans les années 70. Récent, 73, première implantation du Sauvignon, grâce au géant viticole Montana, qui a installé des vignobles, notamment dans cette partie nord de l'île du Sud, le secteur de Nelson, Marlborough, Blenheim, etc.
Où il n'y avait que des pommes et des poires.
Exactement. Et qu'est-ce qu'on faisait comme vin pendant très longtemps en Nouvelle-Zélande?
Du cidre et du calva.
Non, c'était pas du vin, ça, monsieur Martin. Non, non. On faisait un vin d'une inspiration germanique, puisqu'on faisait du Lebfraumich, qui était un vin doux, franchement, qui n'avait aucun intérêt.
Avec du Müller-Thurgau.
Peut-être que les personnes âgées,
Ils
sont mis à travailler effectivement sur Sauvignon. Dans le secteur de Marlborough, il y a maintenant trois sous-régions. La région de Veyro, qui est la région la plus intéressante, finalement, c'est 45% de la production de la région. Et il y a un sol avec une profondeur assez importante qui permet d'avoir des réserves d'eau. Après, il y a une deuxième région qui est la Southern Valley.
Oui.
Là, on est plutôt calcaire, mais il y a plutôt des pinots noirs qui sont développés, donc on quitte un peu le Sauvignon. Et puis il y a Awatere Valley, qui est la région la plus froide, avec des sols plus pierreux, et qui donne des Sauvignons avec, pour le coup, une expression, avec toutes les parenthèses qui conviennent, minérales, en tout cas moins sur le fruité, plus effectivement peut-être sur la notion un peu plus marquée par sa géologie. Quelques bons domaines, l'un des pionniers, et même avant les années 70, c'était Villa Maria, dont les premières cuvées signées Georges Fistonich produisent des vins depuis cette époque-là.
Beaucoup de Slovènes et de Croates ont émigré vers le... Donc on a beaucoup de noms.
Dès cette époque, dès les années 60. Et donc, ils ont... c'est vraiment la référence historique, avec souvent cette petite sucrosité particulière qui est propre aux vins de cette époque-là et dont ils ont gardé encore un petit peu l'identité. Le deuxième, c'est Claudie B. Bon, là, on ne présente plus parce que c'est la grande
très bon
star.
Aussi, hein.
Oui, c'est bon. Ça appartient maintenant au groupe LVMH.
Moi, j'aime beaucoup Elephant Hills aussi.
C'est pas mal du tout. Alors, c'est un des grands vignobles. Claudie, c'est 300 hectares de vignes. Voilà, avec le côté fruit qu'on a évoqué tout à l'heure, la mangue, l'ananas, mais même le fruit de la passion, hein, ça explose quand même au niveau de tout ce côté fruité. Avec une cuvée qui s'appelle Técoco, qu'on peut aimer ou pas, puisque ça, c'est un travail plus dans la bourguignonne, entre guillemets, en tout cas un travail sous bois, avec un élevage un peu plus marqué, le fût, les lies fines qui permettent d'avoir de la matière, etc. Et pour terminer, le Clos Henri, un petit clin d'œil à nos amis quand même de Sancerre.
Bien sûr, bien sûr.
Si les Sancerrois se mettent à investir en Nouvelle-Zélande,
ah, les bourgeois,
c'est qu'il y a du fond, mesdames et messieurs. Et peut-être même un dernier, Dog Point, qui propose aussi de très très jolis vins qu'il ne faut pas oublier.
Merci beaucoup Philippe Forbach, merci également à vous Hélène Pio, Christelle Leprel, Christophe Seraglini, merci également Angeline et Charlotte ainsi qu'à Sébastien pour cette émission. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio, on se retrouve le week-end prochain, samedi à 12h30, restez fidèles à Sud Radio, excellent déjeuner et puis n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
InVino avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.